En ce vendredi 20 août, nous célébrons la fête de Saint-Bernard de Clairvaux. Abbé Philippe Beitia, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette fête nous plonge au milieu du XIIe siècle.
Voilà, Saint-Bernard né en 1090, au XIe siècle.
Mais il meurt en 1150.
Voilà, donc fin XIe, et puis donc une bonne partie du XIIe siècle, effectivement.
D'où était Saint-Bernard et qu'est-ce qu'il a fait ?
Alors, on peut dire que c'est un bourguignon. Il est de Bourgogne. Il fait partie d'une famille aristocratique, voilà, de seigneurs, d'une famille particulièrement nombreuse.
Et il va fonder un ordre qui existe encore aujourd'hui.
Alors, préalablement, les chroniques nous disent que c'était un beau jeune homme, un très beau jeune homme. Là, il arrive même qu'on le décrive. Moyennant quoi, quand il a voulu entrer dans la vie religieuse avant que de fonder un ordre, ou plutôt d'adapter l'ordre bénédictin, sa famille a voulu quand même lui mettre une fille entre les bras, quoi. Donc, bien sûr, il s'est débattu et a affirmé donc sa volonté d'entrer dans la vie religieuse. Il y est entré avec bonne partie de ses frères. Son père les a rejoints, donc ça a été dans un monastère qui commençait à péricliter, où Saint-Étienne Hardin se demandait ce qu'il allait faire de cette maison. Tout d'un coup, il y a eu un renouveau, puisque il y a eu un tas de jeunes qui sont arrivés.
Et ce monastère, c'était ?
Alors, ce monastère, c'était donc Cîteaux.
Donc ça, c'est en 1115, et il va passer 3 ans dans ce monastère, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, il va devenir un jeune abbé. Il est abbé à 25 ans, avec ce que cela suppose. Et dans le fond, il se démarque. C'est bien sûr la tradition bénédictine, mais l'ordre Saint-Benoît, au Moyen-Âge, c'est une puissance. Il y a des abbayes puissantes. Certains abbés ont l'oreille des empereurs, parfois pour le bien entendu. Voilà, donc en même temps, l'ordre, les monastères, les églises sont enrichies d'images, ce genre de choses. Saint-Bernard, ça l'intéresse moins. Donc il va donner une nouvelle version, si on peut dire, de la règle bénédictine à travers Cîteaux. Donc quand vous visitez une église cistercienne, c'est quand même une église très 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 dépouillée. Il va vouloir revenir un peu aux valeurs évangéliques, si je puis dire, pures et dures.
Alors ensuite il va aller à Clairvaux, et c'est là qu'il va passer toute sa vie finalement.
Voilà, enfin, passer toute sa vie. C'est pas un sédentaire, on va l'avoir très souvent sur les routes de l'Europe. Je crois que c'est à Dijon, je crois, ou en Bourgogne, vous avez une plaque Place Saint-Bernard, homme d'État. Parce que, en même temps, il va être mêlé à un tas de choses, entre un conflit entre un pape et un antipape, à prêcher une croisade, à diverses négociations, sans compter sa vie de religieux et sa vie d'abbé, donc avec tout ce que ça comporte de dons seigneurs, mais également d'instructions, d'enseignements à donner, de lettres à écrire et ce genre de choses.
Alors, Saint-Bernard, donc, abbé de Clairvaux, vous l'avez dit, il ne va pas rester cloîtré dans son monastère, il va aller notamment assez souvent à Paris, où il va vénérer la statue de Notre-Dame de Paris. Finalement, qu'est-ce qu'il inspire ? Quelle est la spiritualité de l'ordre qu'il fonde, les cisterciens ?
Alors, vous avez une spiritualité de Saint-Bernard lui-même, alors qu'il est jeune et qu'il se rend à la messe de minuit. Avant que d'être religieux, il arrive à l'avance, l'église est fermée, il s'endort en attendant, et il a une expérience spirituelle, il voit dans, dans son rêve, en quelque sorte, la mère de Dieu lui présentant son fils. Donc vous avez une spiritualité de l'incarnation, l'importance pour lui donc du verbe incarné. Donc il va insister sur l'incarnation, sur l'enfance de Jésus, qui est aussi modèle de l'enfance spirituelle, pour que nous aussi, dans l'esprit d'enfance, nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, sur l'enfance de Jésus comme modèle d'humilité et d'obéissance, puisque le Christ, dans son incarnation, a été obéissant au Père jusqu'à la mort. Donc il va insister, entre autres, sur l'obéissance et l'humilité, qui sont les remèdes au péché. Le péché d'Adam, c'est tout le contraire, et qui sont nécessaires pour trouver, chercher la vérité. Et dans cette perspective, il va insister sur la connaissance de soi, sur notre misère, sur notre péché, la connaissance du prochain, et bien sûr la connaissance de Dieu.
Saint Bernard, donc, c'est un fondateur. À sa mort en 1153, il y aura plus de 343 abbayes cisterciennes en Europe. Bon, il ne les a pas toutes fondées, mais il y a largement contribué.
Oui, quand il meurt, il y a un nombre impressionnant d'abbayes cisterciennes. Il est en quelque sorte un peu à l'origine de ce mouvement.
Est-ce qu'on peut considérer que Saint Bernard est le dernier père de l'Église ?
Alors, bon, oui, on le dit Pie XII dans Docteur Mellifluus, dans la lettre encyclique qu'il écrit pour l'anniversaire de la mort de Saint Bernard en 1953, dit cela, qu'on le considère comme le dernier père de l'Église, enfin, qu'on peut le considérer. Parce que, bon, dans le fond, il est hors du temps des pères. Les pères, c'est du 1er au 8e siècle, mais en Occident et en Orient. Lui, quand même, 11e, 12e, c'est bien plus tard. Mais la manière dont il présente l'Écriture, dont il réfléchit, dont il contemple, est très en harmonie avec ce que les pères ont écrit.
Saint Jean-Paul II, pour le 9e centenaire de sa mort en 1153, ou de sa naissance au ciel, le 20 août, c'est ce que nous célébrons en ce jour, va lui aussi rendre hommage à Saint Bernard par une lettre.
Voilà, donc il va s'adresser aux deux supérieurs généraux de l'ordre cistercien. Donc, tout à l'heure, je vous ai indiqué quelques aspects de cette lettre. Mais il y a un autre aspect qui est présent chez Saint Bernard, et que le pape Jean-Paul II note dans sa lettre, c'est que voilà, Saint Bernard va insister sur le fait que nous sommes appelés à imiter le Dieu de miséricorde. Alors, en étant miséricordieux envers nous-mêmes, c'est-à-dire en nous convertissant, voilà, en étant bien sûr miséricordieux envers le prochain, et en imitant Dieu qui se penche avec amour sur le genre humain. Il va insister sur l'école de charité qu'est la vie monastique. Et Jean-Paul II dit que cette insistance convient à notre époque, parce que ça veut dire que la communauté est nécessaire pour le salut, et qu'il s'agit d'éviter toute démarche individualiste. Et donc, Saint Bernard invite son fils spirituel, le pape Eugène III, dans le De Considerazione, à prendre soin de lui. Prendre soin de lui en pratiquant la contemplation pour le ministère. Puisque dans le De Considerazione, donc il donne en quelque sorte des conseils au pape, et bon, les divers papes vont considérer qu'il y a encore du valable dans ce que, bon, de temps en temps, ils secouent un peu Eugène III et aussi les mœurs de l'époque. Et il insiste aussi, à sa manière d'un homme du Moyen-Âge, sur la nécessité pour les laïcs de construire l'Église. Alors, pour lui, c'est par l'obéissance et la charité que les laïcs sont appelés à construire l'Église, bon, mais à sa manière, déjà il met en lumière cela. Et aussi une dernière insistance sur la dignité de la personne humaine, puisqu'elle est capax dei, c'est-à-dire capable, par grâce, de vivre la vie divine, de connaître Dieu, et d'être réellement une personne donnée au Seigneur et donnée aussi donc aux autres.
Saint Bernard avait une dévotion particulière à la Vierge Marie.
Voilà, vous avez quelques homélies sur le Missus Est, c'est-à-dire sur l'épisode de l'Annonciation, qu'on appelle l'homélie de l'aqueduc. Et donc il va, bon, il a une grande tendresse pour la Vierge Marie, Mère de Dieu, et il va la présenter comme médiatrice des grâces à cause de sa maternité. Il va prendre une très belle image, celle d'une conque qui est remplie d'eau et qui se déverse pour notre salut. Et puis voilà, vous connaissez bien sûr ce très beau texte, hein, voilà, regarde l'étoile, invoque Marie dans les grandes difficultés de ta vie.
Merci beaucoup, Abbé Philippe Beitia, de nous avoir parlé de Saint Bernard de Clairvaux, abbé docteur de l'Église, décédé le 20 août 1153, et que nous célébrons aujourd'hui. Merci beaucoup.